fumeur nous l'ému. Donc, bah, bonjour à tous. Donc, je suis François Lamoureux. Je suis professeur des écoles et directeur d'une petite école rurale dans les Landes. Et aussi mort de trac parce que j'ai pas l'habitude de parler devant ce type de public. Mais voilà, mon public d'habituel, il est grand comme ça et il a 7 ans. Mais voilà. Donc, je vais vous présenter mon expérience en tant qu'enseignant sur les interactions entre élèves avec les tablettes numériques. Avant de commencer, je vous propose tout de suite de vous montrer une petite illustration qui va être un peu la trame de mon propos, en vous montrant une production d'élèves, puisque je n'ai pas pu vous les amener pour vous les faire témoigner, mais je les ai filmés, donc quelque part, je les ai pris un petit peu avec moi. Et ensuite, je vais vous expliquer comment on en est arrivé là, la démarche que j'ai, la posture que j'adopte. On en a parlé beaucoup tout à l'heure. Adeline, tout à l'heure, a dit des choses très intéressantes et je vais rebondir dessus. Et on parlait de posture de l'enseignant qui change avec ses nouveaux supports. Et je l'ai vécu de l'intérieur. Je vais vous en parler après. Donc, il faut savoir que la petite vidéo que vous allez voir ici, elle est faite du début à la fin, sans aucune intervention, presque aucune intervention d'enseignant. La seule intervention, elle a été sur la langue, puisqu'il s'agit d'un projet en culture régionale. Donc, c'était en Gascon, puisque chez nous, c'est le sud-ouest. Et c'était un projet qui portait sur la course landaise. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. C'est un sport avec des vaches dans une arène où il faut éviter une vache qui arrive. Bon, là-bas, c'est culturel, c'est très... voilà. Donc, la seule intervention d'un adulte, d'un enseignant, ça a été la traduction. Puisque l'objectif, c'était quand même la culture régionale. Mis à part la traduction, le choix des textes faits, les prises de vue, toute la partie technique, je ne suis intervenu dans rien du tout. Donc, je vous le montre. Voilà, 7 ans. C'était de garder une trace de cette... puisque ça s'est terminé par une course avec plein d'écoles, etc. Et on s'est retrouvés dans les grandes arènes du village d'à côté. Et donc, il y avait une petite annexe où les élèves de chaque école présentaient des travaux. Et nous, on avait notre vidéoprojecteur avec notre vidéo. Et donc, ils étaient quand même assez fiers de présenter leur bande-annonce. Donc ça, c'était pour vous montrer que l'objectif, mon objectif à moi, et ma conception de l'enseignement, c'est de leur apprendre à se passer de moi. C'est comme ça que moi je le vois, le plus possible. Heureusement, je suis encore un peu indispensable, mais le plus possible. Donc le contexte, là c'était juste l'illustration, le contexte de l'école, donc c'est très rural, à Gaujac, donc il y a 400 habitants. Mon école, elle a deux classes, il y a 45 élèves. Je suis en charge du CE1 et du CE2, donc j'ai un groupe hétérogène sur deux années. Nous avons 12 tablettes et moi je m'inscris dans ce que je pense en règle générale, une démarche socio-constructiviste, c'est-à-dire ce qui a été dit là juste avant et par Adeline tout à l'heure, que je pars du principe que les élèves construisent leur savoir et qu'ils le construisent d'autant mieux qu'ils le construisent ensemble. On apprend seul mais jamais sans les autres. 12 tablettes, donc c'est pas un équipement où chaque élève a sa tablette. On a une tour de rangement au fond de la classe. Les tablettes sont plus ou moins en libre service, plutôt plus que moins d'ailleurs. Il n'y a pas de tablette attitrée et elles ne rentrent pas à la maison le soir, ce qui différait des certains projets qui ont été évoqués là. Moi, je me sens plus à l'aise dans un dispositif de ce type, puisque l'outil, il va devoir être partagé. Et justement, ces interactions dont on parle, ben, comme on va travailler en groupe autour d'un outil, ça sera forcément générateur d'interactions. Et des interactions qui vont être très très riches, vous allez le voir ensuite. Alors, l'arrivée d'une machine qui change tout pour l'enseignant. Il y a 4 ans, j'étais comme une pile. C'était un vendredi, je travaillais, je ne pouvais pas faire la queue devant la Fnac pour aller chercher mon iPad. Donc j'ai envoyé ma compagne, qui a bien voulu, qui a fait la queue pour moi. Et cet objet, la tablette, quand je l'ai eu dans les mains, moi je me suis retrouvé à avoir 7 ans. Je trouvais que cet objet était magique, sorti tout droit d'un film de science-fiction. C'est-à-dire que dans quelque chose d'aussi fin, ça répondait au doigt, on pouvait regarder des vidéos dessus, on pouvait voir des photos zoomées. Enfin, c'était, pour moi, c'était de la science-fiction. C'était quelque chose d'assez inimaginable. C'était, comme le disait François-Xavier tout à l'heure, un outil nouveau. C'est-à-dire que ben, quand il est sorti, même moi quand je l'ai eu, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. Je savais juste que c'était cool. Mais pourquoi, je ne savais pas trop. Alors j'ai commencé, ben, comme un peu tout le monde, au début à mettre mes fiches dessus, etc. Puis, parce que c'était pratique quand même, c'était léger, c'était transportable, c'était très mobile. Et donc je l'ai amené à l'école. Et puis plus je l'amenais, plus je voyais quand je passais les élèves qui se levaient comme ça, qui lorgnaient sur la tablette. Et je me suis dit, bon. Il y a peut-être quelque chose à creuser de ce point de vue-là. Donc ça, c'était il y a 4 ans. C'était il y a 4 ans. Donc j'ai commencé à chercher, voyons, est-ce qu'il n'y a pas des applications qui pourraient se prêter à des usages en classe. Donc j'ai trouvé quelques petites applications mathématiques, on essayait à droite à gauche. Et puis, bon, le processus a mûri. Et je me suis rendu compte que ce format, ben, vraiment, c'était quelque chose d'inédit. Parce qu'on a dit au départ, bah oui, c'est un gros smartphone. Ou c'est un ordinateur sans clavier. Et c'est ni l'un ni l'autre en fait. La tablette, c'est une tablette. Et il y a le fait qu'il y ait cette caméra intégrée, qu'il y ait un micro intégré, qu'on puisse faire de la vidéo, qu'on puisse faire des photos, capturer du son, capturer le moment en se déplaçant. Le fait qu'il y ait aussi une batterie, qu'il y ait une autonomie qui dure plus que la journée, qui permet bah, de s'affranchir de pas mal de contraintes techniques. Le fait qu'on puisse les stocker de façon très simple, puisque c'est un encombrement minimum dans la classe. Donc tout ça m'a fait penser que c'était vraiment un outil qui se prêtait à mon travail de classe. Ça a changé aussi. Donc beaucoup de choses pour moi, j'ai remis ma pratique en question une fois que j'ai eu cet objet-là. Ça a changé aussi beaucoup de choses pour mes élèves dans les tâches qu'ils ont pu accomplir, notamment sans moi aussi, plus en autonomie. Ce que je vous disais, le tout en un, le fait que bah, on puisse faire la vidéo, faire des photos, prendre du son, et sans intervention technique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que prenons l'exemple de Didapage, qui est un très bon logiciel pour faire des livres numériques sur ordinateur. Si on voulait créer un livre numérique avec du texte, quelques liens, etc., c'était très simple, puisqu'il suffit de mettre sur l'ordinateur, de taper, c'était pas très compliqué. Dès qu'on voulait mettre de la photo, de l'image, du son, le processus devenait un peu plus complexe. Alors pour des élèves de cycle 3, de CM1, CM2, ça pose pas trop de difficultés. Pour des plus petits, et je pense même au niveau de la maternelle, c'était infaisable. C'est-à-dire que le didapage, c'était pas vraiment l'élève qui le faisait. C'était l'élève et beaucoup le professeur, puisque il ben, fallait prendre la carte SD, la mettre dans l'ordinateur, importer les photos, glisser dans le, aller chercher dans les dossiers. Bref, c'était très technique. Et la tablette, elle efface quelque part ce côté technique pour pouvoir se concentrer vraiment sur les apprentissages. Et la forme, elle passe un peu à la trappe, on est sur le fond. C'est-à-dire qu'on ne s'encombre pas, on ne perd pas de temps. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis en tant qu'enseignant dans mon quotidien, parce que le temps, c'est quelque chose qui nous manque cruellement. Je ne perds pas de temps avec des contraintes techniques, puisque les élèves eux-mêmes, quasiment sans apprentissage, les maîtrisent déjà, ces contraintes techniques. Et elles sont quasiment inexistantes. Bon, le support motivant et moderne, ça a été évoqué. Effectivement, bah, c'est un support naturellement vers lequel ils vont parce que c'est attrayant, un peu comme moi, qui doit avoir peut-être un âge mental un peu plus, ou disons une appétence pour le numérique qui doit être très proche de la leur. Bah, voilà, c'est un outil qui donne envie. Ça a une dimension magique. Ça a une dimension magique. Et donc, vecteur d'interaction. Alors, quel type d'interaction? Moi, j'en ai relevé trois grandes. Je vais balayer la première qui, je pense, n'est pas la plus intéressante, qui est l'interaction entre plusieurs élèves équipés chacun d'une machine, donc des échanges de fichiers, du partage. Il y a des possibilités de faire des choses très intéressantes sur des textes, des documents collaboratifs comme les Google Docs où on peut travailler à plusieurs sur des machines différentes, mais ce n'est pas ce que j'utilise le plus et dans la configuration que j'ai, ce n'est pas ce qui s'y prête le plus. Par contre, il y a deux autres types d'interactions. Les interactions dans un groupe, donc ce que disait François-Xavier avant, dans un petit groupe avec une tablette, et des interactions aussi, des interactions pardon, asynchrones, voire même à distance, avec d'autres groupes d'élèves, avec d'autres classes. Je vais vous montrer tout de suite un exemple. Alors, nous avons un compte Twitter de classe. Donc ça, jusque-là, vous allez me dire, rien à voir avec la tablette, on peut très bien le faire sur l'ordinateur. Oui, tout à fait. Par contre, on réalise des tâches qu'on aurait eu plus de mal à faire avec un ordinateur classique. Le photoproblème, le but du jeu, c'est par binôme d'inventer un problème qu'on va soumettre à d'autres classes, puisqu'on est en réseau sur les réseaux sociaux, qu'on va soumettre avec d'autres classes. Bien entendu, il faut avoir la réponse au préalable, parce que si on pose un problème mais qu'on n'a pas la réponse, ça ne sert pas à grand-chose. Et il va falloir mettre en image ce problème pour le poser. Donc ça suppose une partie qui se passe complètement indépendamment de la tablette, c'est-à-dire avec le stylo et le cahier. Les deux élèves qui se concertent et qui proposent, donc, qui visualisent ce problème, qui manipulent donc les cubes pour préparer leur problème, qui écrivent leurs questions, et ensuite on passe à la phase partage tablette. On prend la photo, on écrit notre question, et on publie, et on attend la réponse. La plus-value que je vois, moi, c'est la tablette. On n'a pas eu besoin, une fois que le problème a été créé, on a pris la tablette, crac, photo, on tape le texte qu'on a fait avant, qu'on a corrigé, on a travaillé sur l'écrit, etc., pour que ce soit grammaticalement correct et tout ça, et on envoie. Et là, le gain de temps, il est assez énorme, et en plus de ça, on a pu mettre une image sur un problème. Et les problèmes mathématiques à l'école primaire, c'est justement très problématique. Et non, mais c'est parce que tous les élèves, chaque année, c'est un problème. C'est un problème. Alors c'est quelque chose d'insurmontable. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de sens derrière les problèmes. Enfin, chaque année, moi, je me heurtais à ça. Et là, au moins. Là, au moins, on arrive à visualiser ce problème. C'est pas quelque chose d'abstrait, c'est un problème. Ah, c'est ça un problème, donc. Donc, on est arrivé là-dessus. Là, par exemple, on a aussi... Donc, voilà, c'était un autre photoproblème. Et c'est l'exemple d'une autre classe qui nous répond avec une justification et un calcul derrière. Donc, voilà, on a l'interaction avec une autre classe à distance. Hop. Alors, toujours dans les interactions à distance, je vais aller assez vite, c'est un jeu qu'on a fait qui s'appelle le Kaleidos, je ne sais pas si vous connaissez. Le but du jeu, c'est on a des images qui sont très fournies en détail, on choisit au hasard une lettre, c'est un peu comme au petit bac, on choisit au hasard une lettre et il faut trouver dans l'image le plus de mots qui commencent par cette lettre. Donc c'est un travail sur le vocabulaire. Donc ça a été fait en deux temps. Dans un premier temps, on l'a fait en travail en classe, donc interaction entre les élèves, l'image était affichée sur le vidéoprojecteur. Ils se sont concertés pour trouver le maximum de mots, on a fait la liste au tableau, et ensuite on a passé un coup de fil visio à une classe qui était dans le lot, et on a comparé et on a compté les points, et ça a donné...
Chiffre.
On n'a pas entendu Jules, est-ce que tu peux répéter?
Chiffre. chiffre, et non.
On l'avait noté.
Ah non, on l'avait pas noté, vous l'avez retrouvé après. Donc chiffre, on l'a pas.
Sur la voiture. Caméléon.
Oui, oui. Là, là, mamie est dans la première ligne.
Après, c'est quoi le jeu de la voiture?
Crochet.
Oh, ah non, oui.
Non. Eh non. Crochet, on l'a pas trouvé.
Si, on l'avait trouvé, mais après.
Donc c'est voilà, c'était un moment vraiment très très riche et très intéressant et un moment où les élèves étaient mais impliqués, c'était juste hallucinant quoi, de les avoir tous sur une tâche, sur un petit écran comme ça. Et alors ce qu'il n'y a pas dans la vidéo, c'est que il y a eu des moments où ça a été problématique, c'est-à-dire que il y a un mot qui a été proposé, ah oui mais nous on le voit pas. On a pris l'iPad, on a retourné utiliser l'autre caméra et tiens, regarde, il est là. Et donc il y avait cette dimension mobile aussi derrière qui était présente et qui aurait été un peu plus problématique avec un ordinateur. Donc les interactions à distance, l'avantage de la tablette que j'ai vu avec mes élèves, c'est que ça simplifiait beaucoup ces interactions-là. Par la prise de photo qui est très très simple, la vidéoconférence qu'on peut déplacer, on peut même imaginer le faire en extérieur, enfin, c'est d'une simplicité enfantine. Et le partage et la publication qui sont aussi de très très simples. Et donc voilà, moi sur cette partie des interactions-là, j'en arrive à la conclusion que bah, c'est la simplification de l'utilisation de l'outil grâce à ces interfaces-là qui sont dites naturelles. Qui ouvre la voie vers de nouveaux types de production. Et là, on arrive vers ce qui, moi, me tient vraiment le plus à cœur et les interactions que j'aime voir dans ma classe et les moments où je m'efface le plus. Les premières ici, c'est donc dans le cas où on a quelques élèves autour d'une tablette. On est parti cette année dans l'idée de faire des web documentaires en sciences et en histoire. Pourquoi ? Parce que ben, moi, en tant qu'enseignant, j'avais la sensation que mes séquences de sciences et d'histoire n'étaient pas très attrayantes, d'une part, et j'avais la sensation qu'elles n'étaient pas que les résultats des recherches des élèves, puisqu'on était quand même toujours dans une démarche de recherche, ne se fixaient pas et ne restaient pas comme j'aurais aimé qu'elle reste dans l'esprit des élèves. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait fini la séquence, eh ben, on pouvait, après les vacances, on en reparlait, eh ben, ça ne rappelait plus. Donc ce que je leur ai demandé, c'était pas très compliqué, c'était en fin de chaque séance, qu'on faisait comme d'habitude, avec des recherches documentaires donc en histoire ou des expérimentations en sciences, de me faire un compte-rendu très court, en vidéo, de leurs recherches. Et mis bout à bout, on allait faire un petit documentaire, un petit reportage sur le sujet qu'on voulait traiter. Donc je vous donne un petit exemple ici.
Aujourd'hui, on va vous montrer ce que c'est une ombre et comment on peut en faire une.
Pour faire une ombre, il faut une source lumineuse et ça vient du tableau interactif.
Faire de la...
Une ombre ?
Une ombre, il faut un objet, un écran et de la source de lumière.
Pour faire une ombre, il faut mettre un objet entre une source lumineuse et un écran.
Pour faire une ombre, il faut un objet opaque.
Si l'objet est transparent, la lumière le transfère.
Si on met l'objet plus près de la source lumineuse, l'ombre est plus grande.
Si l'ombre est plus près de l'écran, elle est plus petite.
Alors, leur démarche, elle est juste passionnante à observer Parce que bah, moi aussi, je découvrais, là j'étais en position d'apprenant, et d'ailleurs je me positionne toujours, même avec eux, en position d'apprenant et pas du tout en détenteur du savoir, puisque de toute façon, là on était au même point, c'est-à-dire qu'on allait faire le documentaire, eux n'en avaient jamais fait, moi non plus. Donc j'ai beaucoup observé leur démarche et j'ai essayé de pas les formater justement à une démarche de production. Et ce que j'ai pu observer, c'est qu'ils ont mis en place des protocoles, c'est-à-dire qu'ils voulaient tout écrire. Il fallait que tout passe par l'écrit avant. Il n'y avait pas d'improvisation dans la vidéo. Quand je leur demandais pourquoi, ils ne savaient pas trop me dire, mais pour être sûr, pour ne pas se tromper. Donc, ils voulaient tout écrire. Donc, ils prenaient leur cahier, ils écrivaient, et ensuite, ils passaient, ils filmaient, etc. Donc, l'objectif ici, c'était de pratiquer une démarche scientifique, de partager l'outil, encore une fois, puisque ce n'était pas un outil individuel. La construction des savoirs, et surtout, ce sont des productions, et on l'a bien dit quand on les a publiées sur Twitter la première fois, ce sont des productions qui sont à discuter, à compléter ou à corriger. C'est-à-dire que moi, je sais très bien qu'en science, on simplifie souvent pour les petits, etc. Et ce qui m'intéressait, c'était justement par le biais de Twitter, de pouvoir avoir des réactions d'experts, peut-être, qui nous auraient dit que eh bien, on s'est trompé, ou alors qu'ils auraient pu nous étayer. Malheureusement, la sauce n'a pas pris. Peut-être que j'ai mal présenté la chose, ou je pense que quand l'année prochaine on repartira sur des choses comme ça, j'essaierai d'être plus clair là-dessus, parce que je sais que notamment Ange Ansour et François Taddeï ont beaucoup échangé au niveau des sciences, et j'aurais bien aimé avoir des retours comme ça. Bon, ça c'est pas très grave. Et donc ça c'était pour les web documentaires, et pour finir, la pièce de résistance. Ce que je trouve le plus, comment dire, le plus structurant, l'interaction qui est le vecteur des apprentissages les plus durables et les plus sains, on va dire, peut-être, et qui me correspondent le plus, c'est la création de capsules. Même sur des notions, cette fois-ci, pas de science ou d'histoire, mais c'est du français, c'est des maths, ça peut être des choses très très courtes, mais c'est ce que tu disais, Aline, tout à l'heure, c'est produit par les élèves. Et là, c'est très intéressant. J'ai filmé trois élèves en train de réaliser une capsule en géométrie, et vous allez voir justement les interactions qu'il y a entre eux.
Non, parce qu'on va enregistrer
vous
par dessus après.
Ah oui.
T'es prêt?
Oui.
Bon. Après c'est qui écrit
une trace, une droite,
une autre droite,
une autre.
Lucie, c'est toi qui filmes?
Oui.
Toi tu filmes?
Moi je filme.
Non, c'est moi qui filme.
Et moi je filme. Voilà, j'appuie sur tu retraces. Non.
Tu passes sur la petite caméra en bas?
Si.
Ouais. Non, on retrace une droite.
Mais oui, mais c'est pas comme ça qu'on retrace une droite.
Oui.
Non.
T'es prêt?
Elle a raison, Mayala, non?
C'est comme ça. Tu traces comme ça. Comme ça, et après tu refais.
T'es prêt?
Oui. Regarde, là tu traces ton autre droite comme ça. Tu traces ton autre droite et après tu auras ton.
T'es prêt?
Et donc là, il y a eu quand même une formation par les pairs, quoi. C'est-à-dire que, bon, je suis un peu intervenu, je m'en suis voulu après quand je me suis revu, mais je me suis quand même arrêté, et c'est-à-dire qu'il n'avait pas compris, la petite fille, elle a vu qu'il n'avait pas compris, et elle lui a montré comment faire. Et il a retenu, et ensuite il a fait correctement. Et ça, c'est le type d'interaction vers lesquelles moi j'aspire profondément. C'est-à-dire, voilà, le savoir, il est construit par les élèves et il est construit par les élèves entre eux, validé par eux. Et donc maintenant, on se fait des petites sessions de 20 minutes de validation de capsules. C'est-à-dire que fin de journée, on se met dans notre coin regroupement à côté du vidéoprojecteur et donc je prends toutes les propositions de capsules qui sont faites à la classe et on les diffuse. Et là, c'est la classe qui décide si on va la publier ou pas, sachant qu'il y a un cahier des charges. C'est qu'on ne peut pas publier une capsule dans laquelle il y aurait un texte qui comprendrait des erreurs, puisque sur Internet, on ne publie jamais quelque chose où il y a des erreurs de français ou des approximations ou autre. Et le but, c'est que, alors ils le savent très bien, la capsule doit permettre à des gens qui ne savent pas faire d'apprendre à faire ou au moins de voir comment on fait. Donc, on regarde la capsule. Et alors, ce qui est super, c'est que généralement, comme il y a un multiniveau, les CE1 n'ont pas forcément vu ce qu'ont fait les CE2 comme notion. Donc, ils essayent de faire. Donc, on voit s'ils arrivent à faire, s'ils arrivent à comprendre, à donner un exemple, ou, ben on valide. S'il n'y a pas d'erreur, on valide. Et donc, c'est, là aussi, il y a un processus de validation par les pairs. Si par contre, il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible, si le son n'est pas bien pris, etc., ben, on ne valide pas. Et à ce moment-là, par contre, on écrit, on n'arrête pas le projet, on ne le met pas à la poubelle. Hein. On écrit ce qui a péché et la fois d'après, les élèves vont présenter la capsule corrigée et généralement, deux essais et c'est correct. Et c'est valable pour tout. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les protocoles, je me suis mélangé les vignettes dans la tête, les protocoles de départ, donc ce sont les leurs, ceux qui choisissent comment ils font. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand il y a un groupe qui trouve, j'ai presque fini. Quand il y a un groupe qui trouve un protocole qui est intéressant, où il y a un gain de temps, les autres le reprennent. Donc, ils construisent leur protocole au fur et à mesure. Je vais aller très vite. Je vous montre une capsule finie, donc je suis toujours sur le même thème.
On commence par tracer une droite. On glisse l'équerre le long de la droite. Après, on vérifie s'il a bien un angle droit.
Voilà, c'est des choses très courtes, hein, mais c'est une structuration des savoirs. Rapidement, je vous en montre un autre. Hein, sur les homophones.
Homophone, son et son. Son, S-O-N, est un déterminant. On peut le remplacer avec mon ou ton.
Maintenant, on s'occupe de son, S-O-N-T. C'est le verbe être à la troisième personne du pluriel au présent. On peut le remplacer par été.
Donc voilà notre exemple. Juste pour finir, avant de faire le bilan de tout ça, j'ai vu cette image l'autre jour sur Internet et je l'ai trouvée très parlante. D'un côté, il y a un usage du numérique, de l'autre, le même matériel, mais pas le même usage. Et je trouvais ça très parlant parce que moi, je me retrouve forcément dans celui de droite, puisque même dans la petite fenêtre, vous voyez, ils sont dehors en train de prendre des photos à côté d'un arbre. Il y a des groupes qui travaillent à plusieurs, il y a des gens qui travaillent tout seuls, il y en a qui travaillent par deux. Ici, en fait, finalement, on fait que reproduire quelque chose qu'on fait déjà en remplaçant un outil par un autre. Ici, on est vraiment sur quelque chose de nouveau, sur une façon d'enseigner qui est complètement différente, qui suppose une posture de l'enseignant complètement différente. C'est-à-dire que là, il est devant sa classe, on est en frontal. Ici, il est avec un groupe d'élèves, les autres sont autonomes. Ça présuppose aussi une confiance dans les élèves. Il faut partir là-dessus avec vraiment la confiance, sinon après, on n'arrive à rien. Et juste, je finis alors très rapidement. Donc moi, ce que j'en ai retiré, c'était que les interactions de plusieurs élèves autour d'une tablette, c'était un très très fort vecteur d'apprentissage puisque les notions étaient fixées durablement. Que la tablette, malgré tout ce qu'on a dit au départ, c'est pas qu'un outil de consommation, c'est un outil de production. Hein, je ne fais quasiment jamais d'exerciceur sur la tablette. Pour moi, ça ne sert à rien puisqu'on pourrait très bien le faire sur un cahier. Donc ça n'a pas d'intérêt dans mon dispositif. Pour moi, la tablette est là pour créer dans la classe, pour fabriquer des choses, pour structurer les connaissances. La création de contenu par et pour les élèves de façon réellement autonome, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que je n'interviens pas dans leur... Je suis là pour les guider, je suis pas là pour leur transmettre quoi que ce soit, je suis là pour les aider à avancer, à se construire. Et voilà, enfin, pour finir, la tablette comme un vecteur d'interaction dans un cadre sécurisant et créatif. Et ça induit le changement radical de la posture de l'enseignant, parce que si on ne lâche pas le contrôle, si on essaie pas de s'éloigner un petit peu, de prendre du recul et de les observer, de les laisser faire, je pense qu'on n'arrive pas à changer les choses et à changer la façon dont on enseigne.